magazine des Nations Unies.
Bonjour, bienvenue au magazine des Nations Unies. Voici les principaux titres de cette émission. Les lampions se sont éteints sur la 18e session du comité intergouvernemental des experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce forum avait pour but de booster les investissements étrangers pour le développement du continent. C'est notre actualité de la semaine. La RDC compte aujourd'hui plus de 3000 enfants associés aux groupes armés, selon les estimations de l'UNICEF pour 2014. Que faire pour sortir ces enfants de ce carcan et comment accompagner le programme de démobilisation du gouvernement? La réponse fera l'objet de notre décryptage avec un spécialiste en protection de l'enfant de l'UNICEF. Enfin, une plainte de l'ONG internationale WWF jugée recevable à l'Organisation de coopération du développement économique. Cette plainte porte sur les tentatives d'exploration pétrolière par la Soko internationale dans le parc de Virunga. Les détails dans un instant avec notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. L'actualité de la semaine de ce magazine concerne la clôture à Kinshasa de la 18e session du comité intergouvernemental des experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les discussions ont tourné autour du thème « Les champions nationaux, les investissements directs étrangers et la transformation structurelle en Afrique de l'Est ». À l'issue de cette rencontre de 4 jours organisée par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de cette commission, les participants ont recommandé l'amélioration du climat des affaires en Afrique pour favoriser les champions nationaux considérés ici comme les grandes entreprises africaines, pour ne citer que cette recommandation-là. Selon le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent a des potentialités pour la croissance de son développement économique. Antonio Petro est au micro de François Kadima.
Nous voudrions avoir des discussions permanentes avec les champions nationaux, avec les politiciens. Il faut aussi être conscient que c'est un processus. Nous avons dit ici, dans cette réunion, qu'il faut passer de la vision à l'action et l'implémentation. Ce que sorti ici comme recommandation, c'est bon pour commencer, mais après, il faut avoir des discussions avec les chambres de commerce, avec le businessman dans les pays, avec la société civile, y voir quelles sont les stratégies qui sont plus appropriées, comme je peux dire, pour cette réalité. Je crois que l'Afrique a des opportunités. Nous avons de la population qui va être un facteur très important pour que l'Afrique puisse jouer le rôle de moteur du développement du monde entier. Nous avons la classe moyenne, un autre facteur important pour la compétitivité de l'Afrique. Nous avons le leadership aussi qui commence à maîtriser que ça, c'est le siècle de l'Afrique.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
La communauté internationale consacre le 12 février de chaque année aux enfants soldats. Le sujet est toujours d'actualité, notamment en RDC, où selon les estimations, 3663 enfants restent encore dans les groupes armés. L'UNICEF et ses partenaires multiplient des efforts pour accompagner le gouvernement dans le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion. Objectif, faire sortir les enfants des groupes armés et assurer leur réinsertion sociale ou familiale. Anna Paola, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF, évoque le sujet. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Anna Paola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de protection de l'enfant à l'UNICEF. Combien d'enfants soldats ont été sortis des groupes armés l'année dernière en RDC et combien estimez-vous le nombre de ceux qui restent encore?
Oui, l'UNICEF a un mandat qui couvre aussi la question des enfants associés aux forces et groupes armés. C'est comme ça qu'on aime les présenter. Donc pas seulement enfants soldats, parce que ça retient l'attention sur l'image d'un enfant avec une arme, mais plutôt enfants associés.
Tout à fait.
Donc filles et garçons qui sont utilisés par les forces et groupes armés. Et en RDC, l'année dernière, on en a assisté plus de 4800. C'est un chiffre très élevé et qui ne semble pas diminuer au cours des années. Et pour le 2014, les estimations qui ont été données dans le plan DDR 3 qui a été signé par le gouvernement sont de 3663 enfants qui restent dans les groupes armés.
Une campagne de sensibilisation menée au Katanga a permis la démobilisation de plus de 550 enfants de groupes et forces armées entre mars et août 2013 au Katanga. Quels sont devenus ces enfants démobilisés au jour d'aujourd'hui, madame?
Oui, merci. Le Katanga, effectivement, ça a été un peu la surprise, une mauvaise surprise, malheureusement, en 2013, parce que c'était une province qui n'avait plus donné des soucis en termes d'enfants associés. Mais en 2013, voilà qu'on a retrouvé de nombreux enfants dans les rangs des groupes Mai Mai dans la province. Et on a dépassé même les 900 enfants qui sont sortis et ont eu l'assistance de l'UNICEF. Beaucoup parmi ces 900 enfants ont retrouvé déjà leur famille, mais il en reste encore certains qui ne peuvent pas être réunifiés à cause de l'insécurité ou du fait que les familles se sont déplacées, donc on ne les a pas encore retrouvés.
Et ils sont où maintenant? Dans les centres de transit toujours?
Tout à fait. L'UNICEF a dû réouvrir des centres de transit au Katanga qui n'existaient plus. Il a dû former des familles d'accueil transitoire pour vraiment faire face à ce nombre d'enfants qui sont sortis des groupes armés. Disons que le souci primaire est celui de les réunifier et de pouvoir initier le plus tôt possible des programmes de réintégration de ces enfants dans leur milieu, avec les familles, avec les communautés, avec les leaders communautaires, pour trouver des solutions durables pour ces enfants.
Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de ceux qui restent encore dans les centres de transit?
C'est aux alentours des 350.
Et là, il faut faire un effort, les réinsérer dans leur famille.
Tout à fait, tout à fait.
Quand même un travail colossal, madame. Et quels sont les principaux partenaires qui vous accompagnent dans ce travail?
Vu qu'on vient de parler du Katanga, on peut commencer de là. Donc au Katanga, c'est les ONG National Réconfort et APD. Au Nord Kivu, le CAGED, le ACOP et Caritas.
C'est toujours national, les ONG?
La plupart des ONG, c'est national et c'est un choix qui est dû au fait de vouloir pérenniser l'impact, les résultats, la possibilité vraiment d'avoir des partenaires qui resteront faire le travail. Au Sud Kivu, on travaille avec BBS et Avreo. En Provence orientale, c'est AGDEC, notre principal partenaire, et Intersos. Et dans l'ouest du pays, on a dû aussi ouvrir des partenariats, vu qu'on trouve aussi des enfants dans les camps et FARDC encore à l'ouest. Donc on a REGER, on a CIMAMA Développement, on a APE en Équateur.
De la démobilisation à la réinsertion sociale ou familiale, il y a tout un processus. Vous êtes spécialiste en protection de l'enfant. Dites-nous comment ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas comment on réinsère un enfant qui sort des groupes armés.
Tout à fait. Donc, comme vous le dites, un enfant qui est associé aux forces groupes armés doit être séparé. C'est pas sa place. Pour ce faire, la RDC a adopté un plan DDR, un cadre opérationnel qui donne les lignes guides aux acteurs de protection pour faire ce type de travail. Donc, comment séparer un enfant, comment le certifier enfant associé, comment le protéger jusqu'à ce qu'il retrouve sa place dans la société.
Soyons concrets, parce que les gens qui nous suivent veulent quand même savoir.
Tout à fait.
Un enfant qui sort des groupes armés, est-ce qu'il va directement à sa famille ou bien il passe par les centres de transit? Comment ça s'est fait, le processus?
Oui, donc l'enfant, une fois qu'il est certifié comme enfant associé, il est séparé, quitte donc les rangs et il entre dans des sites d'accueil temporaire qui peuvent être une famille d'accueil transitoire ou un centre transitoire. Et dans ces centres, normalement, l'enfant, il reçoit un kit d'entrée. Il bénéficie d'une visite médicale, d'un appui psychosocial et il fait des entretiens pour évaluer s'il a besoin d'un appui à l'école ou s'il peut commencer de petites formations au métier.
Ça prend combien de temps tout ça?
Le transit normalement est prévu pour un maximum de 3 mois, mais parfois, comme je le disais, à cause de l'insécurité, on ne peut pas réunifier tout de suite un enfant. Donc l'accueil transitoire malheureusement peut durer aussi des mois, au-delà de 3 mois. Après ça, donc l'enfant retrouve sa famille. Parfois, il faut suivre la famille avec des médiations pour que la famille accueille vraiment l'enfant et il puisse se passer en harmonie. Et puis, l'enfant commence normalement. Soit il rentre à l'école, l'UNICEF Protection et Section Éducation appuient et l'école et l'enfant pour qu'il puisse vraiment reprendre les études. Ou bien, il commence une formation professionnelle. Et là, il y a donc un appui au maître qui donne la formation et à l'enfant avec un kit d'entrée, des frais pour suivre la formation et un kit de sortie.
Oui, si je comprends bien, l'UNICEF et ses partenaires suivent le processus du début à la fin. Donc, de sortir de l'enfant ou même d'un groupe armé jusqu'à sa réinsertion familiale et même à l'école. C'est ça?
Tout à fait.
Ok, c'est une bonne chose. Alors, parmi les enfants qui sortent de groupes armés, il y a aussi des filles. Comment l'UNICEF et ses partenaires assurent-ils leur réinsertion?
Oui, pour les filles, il y a bien sûr une attention particulière due au fait que l'appui psychologique peut-être doit être plus rapproché et plus systématique pour comprendre vraiment quel type de traumatisme aussi la fille a vécu et comment l'aider à s'en sortir. Parfois, les filles ont déjà des enfants, des bébés, donc c'est que l'UNICEF et ses partenaires offrent, c'est un appui pendant les heures que la fille va à l'école ou elle apprend un métier. Il y a des garderies pour les enfants. Et puis quand la fille rentre, voilà, on fait un suivi plus rapproché pour éviter que la fille puisse être stigmatisée ou puisse se décourager vu les difficultés parfois qu'elle fait face.
Oui, dans la pratique, c'est comme si on tourne en rond, car chaque jour, certains enfants qui étaient réinsérés sur le plan social, au niveau des familles, sont récupérés par les groupes armés. Et comment l'UNICEF, votre agence, explique-t-elle ces phénomènes? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter alors ces phénomènes?
Donc, bien sûr, la question de la sécurité est un thème qui est complètement de la responsabilité de l'État. Donc, c'est clair que l'UNICEF ne peut pas rentrer dans ce type de problématique. L'UNICEF a une mandat de protection et supporte l'État quand il a un besoin de protection.
Quel est le programme d'action de démobilisation de l'UNICEF en 2014? Parce que nous sommes encore en début de l'année.
Tout à fait. Donc l'UNICEF continue avec ses partenaires, continue à travailler dans le cadre opérationnel d'EDR et dans le respect du nouveau plan d'EDR3 qui a été signé. Donc supporte le gouvernement. Mais la bonne chose est que le gouvernement de la Suède, USAID, donne des fonds importants à l'UNICEF pour...
On assister. Peut chiffrer ces fonds-là? Parce qu'on peut avoir une idée sur le montant, non? Ok. Oui, allez-y.
Donc, l'appui, la contribution du gouvernement de la Suède et de USAID, du gouvernement belge, c'est des contributions importantes qui assurent aux enfants qui sortent un appui transitoire et surtout maintenant qui visent à assurer un appui pour la réintégration durable des enfants au-delà de l'urgence, donc de 12-18 mois, mais qui vise vraiment à être un appui de 3 ans, 4 ans pour ces enfants.
Et madame, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Débutons ces nouvelles en bref par le Katanga où l'ONG MAG, Mines Advisory Group, a détruit près de 160 engins non explosés la semaine dernière à Kalemi. Ils ont été découverts dans plusieurs localités situées au sud-est de Moba. La même organisation ainsi que ses partenaires pensent que beaucoup d'autres engins non explosés existent encore dans la zone. Les recherches continuent afin finalement de répertorier les zones à risque. Radio Okapi émet depuis samedi 15 février à Zongo, ville située au nord-ouest de la province de l'Équateur, à la frontière avec la Centrafrique. Cette information sur la mise en onde de Radio Okapi s'est propagée rapidement dans la ville. La population se dit satisfaite. Radio Okapi est donc captée sur le rayon de 15 km dans la zone montagneuse et au-delà de 30 km sur les zones planes. Les efforts sont en cours pour étendre cette zone de couverture afin de toucher les camps des réfugiés centrafricains situés à 36 km de Zongo. Poursuite du procès Minova la semaine dernière au Nord Kivu avec l'ouverture le 11 février dernier d'une audience foraine à Minova dans le territoire de Kalehe afin d'entendre les victimes. Ce procès bénéficie de l'appui de la communauté internationale, notamment de la MONUSCO, pour l'aspect des protections des victimes et témoins, du monitoring et de la sécurisation des lieux d'audition. Pour rappel, 3 acquittements relatifs aux infractions militaires ont été prononcés et 39 prévenus restent poursuivis dans le cadre de ce dossier. Enfin, sur le plan humanitaire, le Programme alimentaire mondial en collaboration avec les ONG partenaires Oxfam et Conseil norvégien pour les réfugiés, organisé du 10 au 16 février, des foires au vivre dans les territoires de Massissi, Lubero, Walikale, dans la province du Nord Kivu. Plus de 67 000 personnes déplacées ont bénéficié de cette assistance alimentaire. Chaque ménage a obtenu des coupons alimentaires d'une valeur variant entre 60 et 95 dollars américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Fonds international pour la conservation de la nature, le WWF, se dit satisfait. Sa plainte contre Soko International sur l'exploration pétrolière dans le parc national des Virunga auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a été jugée recevable le 14 février dernier. Quelles sont les conséquences de cette acceptation et comment dissuader Soko International dans sa tentative? Tout l'éclairage sur le sujet dans cette interview avec le directeur du WWF, Nicole Ngaka, était au micro.
Monsieur Raymond Limbuanamo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le directeur du Fonds mondial pour la nature. Nous savons que l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE vient d'accepter depuis le 14 février dernier la plainte de WWF, autrement dit du Fonds mondial pour la nature, contre la compagnie pétrolière Soko International sur l'exploration pétrolière dans le parc national de Virunga. Nous pensons que c'est un motif de satisfaction pour vous.
Motif de satisfaction, oui, dans un sens, mais surtout une opportunité de donner plus de lumière sur la question et de permettre aux uns aux autres de s'expliquer sur leur position par rapport à l'exploitation ou à la non-exploitation du pétrole au Virunga. Et ça, c'est pour nous, c'est très important.
Alors, pouvez-vous nous rappeler quand même en quelques mots le fond ou le contenu de votre plainte?
La plainte a été formulée par WWF en ce sens. D'abord, le fait que la compagnie Soko a retenu des informations qui étaient nécessaires aux populations riveraines. Les populations riveraines devaient avoir une certaine quantité d'informations par rapport aux impacts des activités que Soko propose de faire, de mener au Virunga. Et ceci n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est que Soko n'a pas respecté les lois du pays. Il n'a pas respecter les traités internationaux qui ont été signés par la République démocratique du Congo pour le Virunga. Et comme Soko est membre de l'OCDE, et l'OCDE a des standards, des normes, et ces normes justement sont dans ce sens-là quelque peu bafouées par Soko, nous avons donc formulé cette plainte.
Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait concrètement? Qu'est-ce qui a été bafoué par Soko?
En principe, on ne peut pas explorer, exploiter du pétrole ou n'importe quel autre minerai dans un parc, surtout de cette envergure comme le Virunga, qui est un site du patrimoine mondial. C'est une loi congolaise. En outre, le Congo a signé un traité avec l'UNESCO pour faire du Virunga un site du patrimoine mondial. Et donc, ces deux lois, dont l'un est un traité et l'autre est une loi, ont été bafouées par Soko. Et donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faut d'abord un consentement préalable et informé des autochtones et des communautés vivant autour de Virunga avant de commencer à explorer ou à faire quoi que ce soit. Ceci n'a pas été fait. Deuxièmement, Soko aurait dû, après qu'ils aient fait une étude d'impact qu'ils ont faite d'ailleurs apparemment, publier les résultats de leurs études qui démontrent que certains impacts négatifs vont être subis par les populations riveraines. Ceci n'a pas été fait, ils n'ont pas été divulgués et par conséquent nous estimons que Soko a enfreint les normes auxquelles il a souscrit en s'affiliant à l'OCDE.
Mais maintenant que l'OCDE vient d'accepter depuis le 14 février votre plainte contre Soukron, que va-t-il se passer concrètement? Quelle sera la suite de la procédure?
Alors, la suite de la procédure est simple. L'OCDE n'est pas une structure de justice. Ce n'est pas une structure, c'est une structure normative. Et vous dicte les normes, et vous dit, vous adhérez à ces normes, vous affiliez à nous. Et Soko a accepté de s'affilier à l'OCDE. Et Soko ayant enfreint les normes auxquelles il a souscrit, nous allons nous trouver dans une phase où nous devons nous parler. Il faut normalement qu'il y ait une conciliation, une médiation entre Soko et VVF sous l'égide de l'OCDE. Ça, c'est la procédure. Il n'y a aucune contrainte judiciaire, rien du tout, mais c'est ce qui doit se passer en principe.
Oui. Raymond Lumbuenamo, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes le directeur du Fonds mondial pour la nature et que vous êtes en ce moment l'invité du magazine des Nations Unies et nous parlons justement de cette plainte que vous avez eu à formuler au niveau de l'OCDE contre la SOCO, qui est en fait la compagnie pétrolière SOCO internationale sur l'exploration pétrolière. Mais beaucoup de gens s'interrogent pour qu'une entreprise pétrolière arrive quand même à avoir un permis d'exploration. C'est que quelque part, ça a été délivré par une autorité compétente en bonne et due forme.
Oui, justement, nous en avions parlé déjà, vous et nous, ici. Moi, à mon avis, il y a eu vice de forme, ou en tout cas, les techniciens qui avaient les dossiers ne l'ont pas bien exposé auprès des instances qui prennent la décision. En ce sens que si jamais on avait dit aux décideurs que si nous mettons nous faisons du Virunga un champ pétrolier, ce qui va arriver, c'est que le Virunga ne pourra plus nourrir son monde. C'est-à-dire tout l'environnement attenant au parc de Virunga, notamment le lac Édouard, qui nourrit des milliers de personnes. Une fois pollué par le pétrole, ce lac ne nourrira plus personne. Les terres agricoles qui sont autour de Virunga, qui produisent ce que vous connaissez, les haricots, les pommes de terre, les choux, les fromages, parce que le pâturage pousse dans le sol. Si tous ces éléments-là sont pollués par le pétrole, nous aurons de sérieux ennuis. Et si le Virunga est défiguré par les champs pétroliers, le tourisme va en souffrir. Alors que le Nord qui vous vit principalement du tourisme, ce serait une catastrophe dont le Nord qui vous ne pourra pas se relever. Et si on avait dit cela aux décideurs, je pense qu'ils n'auraient pas accédé à la demande du Parlement.
On va s'arrêter là. Raymond Lumbuenamo, nous rappelons que vous êtes le directeur du Fonds mondial pour la nature. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cet entretien.
Notre nouvelle de province à présent, le mandat de la MONUSCO, son rôle et sa reconfiguration en RDC, au centre d'une rencontre mardi dernier entre le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et les étudiants de l'université de Kinshasa à la colline inspirée. Dans une série de jeux questions-réponses, Martin Kobler a expliqué la nouvelle dynamique qu'engage la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC pour le retour de la paix et de l'autorité de l'État dans le pays. Après près de 15 ans de présence, la MONUSCO a certes connu quelques défaillances, a reconnu le représentant spécial, mais elle a beaucoup contribué dans la stabilisation de la situation sécuritaire, surtout dans la partie est du pays. Les détails de cette rencontre avec Jacques-Yves Molima.
Trois développements majeurs ont sanctionné l'action de la mission onusienne en RDC depuis la fin de l'année dernière, ainsi a dit Martin Kobler devant une salle bondée d'étudiants. Il s'agit notamment de la mise en place de la brigade d'intervention avec un mandat plus robuste dans les théâtres des hostilités, aussi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a déterminé les engagements nationaux, régionaux et internationaux, enfin de la cohésion internationale. Et Martin Kobler d'expliquer.
C'est quelque chose qui est vraiment unique, c'est d'accompagner ce processus, de coopérer avec votre gouvernement, avec les ONG, avec les autres acteurs. Ce sont 5 envoyés spéciaux qui travaillent pour ça.
Ce travail inclut la lutte acharnée contre les causes profondes d'instabilité de la situation en RDC, notamment la question des minerais, de la mauvaise gouvernance et de l'impunité. l'impunité pour ne citer que cela. Les étudiants qui ont pris part active dans ce débat ont eu des avis partagés.
Nous ne devons pas ignorer le rôle de la MONUSCO au Congo et nous espérons que nous allons obtenir gain de cause au regard de tous ces conflits qui ne cessent de menacer la partie est de notre pays.
Moi je pense que ce qu'ils auraient pu faire, c'est de nous former nos forces armées pour éviter que nous soyons encore obligés de recourir à eux à chaque fois.
Avant de se séparer, une note, Martine Kobler et la chorale étudiantine ont exécuté l'Alléluia du Messie.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je me nomme Duvert Kilembe Kimok, originaire de la RDC, marié et père de 4 enfants, dont un garçon et 3 filles. Actuellement, je suis le coordonnateur régional de l'ONU avec nous, en anglais UN Cares, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis basé à Dakar, logé par le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Et j'ai fait mes études primaires ici en RDC, notamment dans la province du Bas-Congo, à l'Institut Bomamungu, dans la ville de Boma au Bas-Congo, avant de passer mes études secondaires au petit séminaire de Mbatakiela, dans le Bas-Fleuve. C'est après cela que je suis venu à l'université de Kinshasa, où j'ai passé mes études en sciences économiques, notamment dans l'option économie publique et industrielle. Donc je suis licencié en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Après aussi, on fait des études un master en management public à l'université William Booth, ici à l'armée du salut. Mes activités quotidiennes, c'est en fait la coordination de toutes les activités qui concernent l'ONU avec nous dans la région. Donc je couvre 25 pays et mes tâches, c'est en fait de faire le suivi, de faire des formations, d'appuyer un renforcement des capacités à tous ceux qui sont affectés à cette tâche dans les différentes agences des Nations Unies au sein de pays. Mais je le fais notamment à travers en fait les équipes pays, parce que dans chaque pays, nous regroupons le point focal UN Cares des agences au sein d'une équipe que j'essaie d'appuyer. Dans mes temps libres, j'aime bien écouter la musique, notamment la musique religieuse congolaise. J'aime beaucoup Alain Moloto, paix à son âme. J'ai fait aussi du sport quotidiennement, c'est parce que tous les jours j'ai fait du sport en salle, mais aussi par moments je pratique la marche. Mes préférences, en ce qui concerne peut-être le reste, j'aime bien la promenade, me retrouver peut-être au bord de l'océan, à prendre de l'air, mais aussi surtout la collaboration, ou plutôt j'allais dire l'amitié. J'aime bien développer les relations, donc je suis toujours entouré du monde partout où je suis. J'oublierai pas, j'insisterai surtout sur la prière. Je suis chrétien croyant et donc je passe beaucoup de mon temps à la prière aussi, à écouter les autres, à les aider à marcher sur la voie du Seigneur. Je peux en passant souligner que je suis du renouveau charismatique catholique et c'est là que je passe en tout cas beaucoup de mon temps pour la rencontre avec le Seigneur, aussi avec les autres humains. Perspective d'avenir, je pense encore poursuivre avec ce travail pour essayer d'aider mes collègues Nations Unies a en fait accédé aux 10 normes minimales des UN Cares, mais aussi peut-être voir dans quels moyens nous pouvons aller plus haut, chercher à servir notre pays notamment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire ici. Et donc, s'il faut revenir un jour au pays, ce serait probablement pour essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la RDC.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Nous vous proposons la question de notre confrère Akin Kombo de Canal Kin sur le sort de 800 otages aux mains des ADF. Question posée lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier.
Akin Kombo pour le compte de Canal Kin Télévision. Je pose la question au général Santos Cruz. Selon les chiffres tracés par les humanitaires, il paraît que les ADF Nalu détiennent plus de 800 otages. Alors maintenant que plusieurs bastions qu'occupaient autrefois ces rebelles ont été libérés par les FARDC, alors quelle est la situation de ces otages? Ont-ils été libérés ou bien ils sont encore en captivité par les FDLR dans leur dernier verrou?
Écoutez maintenant la réponse du général Carlos Dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO, des propos traduits par le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
As you know, in the last 2 years, there is one estimation that the IDF kidnapped between 600 and 800 people.
Selon les informations en notre possession, durant les deux années passées, l'ADF a pu prendre en otage entre 600 et 800 individus.
But
présentement, nous n'avons aucune information précise sur la condition des otages, et surtout que l'ADF n'a jamais demandé de rançon pour la libération de ces gens-là. Il dit que ceci est une façon très étrange pour ces criminels de traiter ces otages-là.
And,
aujourd'hui, nous avons pu, à partir des coupures de presse, aussi être informés des tueries en masse et de la découverte de charniers dans cette zone-là. Nous ne pouvons ni infirmer ni confirmer si ces otages sont toujours en vie parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations là-dessus. Évidemment, ceci est une préoccupation majeure parce que les questions fusent de toutes parts, justement concernant la situation de ces otages-là, mais malheureusement, nous n'avons pas d'informations à mettre à votre disposition sur ce sujet.
Even the FRDC in the front line.
Cette situation est identique à celle des FRDC qui sont sur le terrain et qui n'ont pas la possibilité pour le moment de mettre à notre disposition des informations fiables concernant la situation des otages.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un seul rendez-vous, la poursuite des audiences en chambre foraine à Minova sur les violations de droits de l'homme commises l'année dernière dans ce territoire par des hommes en uniforme et des rebelles du M23. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimwini et je l'ai présenté avec l'assistance technique de Patrick Kiasongwa. Nicole Ngaka en a assuré la supervision et Jean-Pierre Elali Coco était au reportage et à la coordination. Une émission à écouter à tout moment sur notre site internet www.radiokapi.net. Vous avez une préoccupation par rapport à cette émission, contactez-nous au 082 30 76 630, 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire en dessous de notre émission sur www.radiokapi.net ou nous écrire à notre adresse électronique magun@radiokapi.net. À dimanche prochain et excellente journée dominicale à tous.